vivre le moment présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Je m'appelle Moutassem Amour, j'anime le blog Pratiquer la méditation. La première fois que j'ai entendu parler de cette notion de vivre le moment présent, ce fut à travers le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'ont déjà lu. Ce fut la tante d'un ami qui l'a mentionné. Et quelques jours plus tard, dans une librairie, je reconnais le titre de ce livre. Je prends le livre, je regarde à l'arrière pour lire le descriptif. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ce concept de vivre le moment présent m'a paru trop simple. Je me suis dit, ça semblait un peu simpliste, cette idée qu'il suffisait d'être dans le moment présent pour être bien. Donc, j'ai reposé le livre. Et il a fallu attendre quelques mois après, pour qu'à nouveau, dans une librairie, je retombe dessus. Et cette fois-ci, je décide de l'acheter. Je rentre chez moi et le soir même, je commence à le lire. Et après avoir lu une dizaine de pages, je repose le livre et je me sentais bien. Et surtout, j'ai été surpris que cet auteur puisse mettre dans des mots si simples, puisse mettre si clairement en lumière quelque chose que j'avais ressenti, quelque chose que je ressentais. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir du moment présent? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le moment présent? Parce qu'on en parle de plus en plus, vivez dans le présent, reste dans le présent, soit dans l'ici et le maintenant. C'est une notion, c'est un concept qui revient sans cesse, mais parfois, le vrai sens nous échappe. On n'arrive pas trop à matérialiser ce conseil de vivre le moment présent. D'accord, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais? Comment faire pour être dans l'instant présent? Parce que lorsqu'on y réfléchit, tout ce qui se passe, tout ce que l'on fait, se passe toujours dans le moment présent. Que vous ayez tendance à ressasser sans cesse le passé, ou bien que vous êtes plutôt en train de vous projeter, de vous inquiéter, de faire des plans par rapport au futur, tout cela se passe bien sûr dans le moment présent, car il n'y a que le moment présent, on vit tous dans le moment présent. Donc lorsqu'on dit « vit dans le moment présent », ça peut sembler bizarre parce que quoi qu'on fasse, on est dans le moment présent, on vit dans le moment présent. Donc la subtilité de cela et ce que l'on entend par « vivre dans le moment présent », c'est plutôt de ressentir le moment présent, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans l'instant. On ressent le moment présent à travers nos sens. On va ressentir la température avoisinante, on va ressentir la pression qu'exercent nos fesses sur la chaise sur laquelle nous sommes assis, on va ressentir, on va entendre les bruits autour de soi, on va recevoir les couleurs des objets qui se trouvent autour de nous, on perçoit le monde autour de soi, à travers nos sens, dans le moment présent. On ne peut pas ressentir le froid qu'il a fait il y a 4 jours ou la grande chaleur qu'il a fait il y a plusieurs mois. On peut ressentir, les sens ne fonctionnent que dans le moment présent. Les sens ne fonctionnent qu'à travers les stimulations qui arrivent dans l'instant. Alors il y a les sens, les 5 sens connus bien sûr, mais il y a aussi des sens internes du corps, comme ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est la capacité de savoir où se trouve votre corps dans l'espace. Si par exemple, vous fermez les yeux, vous pouvez amener votre index sur le bout du nez. C'est que il y a des nerfs qui ont cette capacité, cette fonctionnalité qui est donc la proprioception, qui nous permet de savoir exactement où se trouve notre corps dans l'espace et par rapport aux différentes parties de notre corps. Donc ça, c'est aussi un sens qui fonctionne dans le moment présent, le sens de l'équilibre. Donc on a un tas de sens internes et externes qui sont activés par ce qui se passe dans le moment présent. Lorsque notre attention est focalisée sur ces informations, sur ces ressentis, on est pleinement dans le moment présent. À l'opposé de cela, lorsqu'on commence à utiliser surtout l'intellect, lorsqu'on commence à utiliser le néocortex, qui est la partie antérieure du cerveau, qui permet de conceptualiser le monde, qui permet d'imaginer des choses, qui permet de revoir des images du passé, qui permet d'analyser des informations. Donc lorsqu'on utilise l'intellect, cela prend une partie de notre attention. Si vous pensez à un événement à venir, votre attention se focalise sur ce déroulement de pensée où vous allez vous projeter, vous imaginer, je dois rencontrer cette personne, je dois gérer ces problèmes de relations, ces problèmes d'argent. L'attention est complètement dans le mental, complètement dans ce processus cognitif, et parce qu'elle est sollicitée par la réflexion, elle va être moins attentive au ressenti du corps, elle va être moins attentive à ce qui se passe autour de nous. Et vous en avez certainement déjà fait l'expérience, parfois on est en train de conduire, on est en train de discuter, on est en train de faire des choses, et on se rend compte tout d'un coup qu'on a complètement décroché de ce qui se passait. On a fait une distance en voiture sans s'en rendre compte, quelqu'un nous parlait et tout d'un coup on a décroché de ce que cette personne était en train de nous dire parce qu'on a pensé à autre chose. Donc lorsqu'on commence à partir dans le mental, nos sens vont diminuer le volume parce que l'attention est occupée par la réflexion, elle est occupée par le mental. Donc cette capacité à prendre une partie de notre attention et la mettre sur l'intellectualisation, sur la conceptualisation, c'est quelque chose qui est assez unique et qui est assez extraordinaire, parce que c'est cela qui nous a permis d'imaginer le monde, de concevoir des choses, de partir de l'imagination, du mental, et d'imaginer comment on peut prendre les éléments qui existent déjà pour construire d'autres éléments. C'est ça qui a fait évoluer la société humaine, qui a fait évoluer la civilisation, qui nous a permis de créer le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à cette capacité de l'intellect qui est assez unique à l'être humain. Et le problème avec cela, donc ça c'est c'est le point positif de cette capacité, mais la contrepartie, l'autre facette de cette qualité, de cette capacité, c'est lorsque l'on fait cela d'une manière continue et d'une manière aussi non productive, on va commencer à créer des problèmes et on va commencer à se déconnecter du moment présent. Alors, lorsqu'on fait cela d'une manière non productive, qu'est-ce que j'entends par cela? C'est que, à l'opposé, une personne va peut-être conceptualiser quelque chose et ensuite mettre en action ses idées. Elle va revenir dans le présent, agir sur le présent. À l'opposé de cela, si on ressasse sans cesse quelque chose qui s'est passé dans le passé, quelque chose qui nous a contrarié, sur lequel on ne va pas pouvoir agir, ou bien on s'inquiète des choses à venir dans le futur sur lesquelles on ne peut pas non plus agir, il ne va pas y avoir vraiment d'action, il ne va pas y avoir de retour dans le présent, et ça va être complètement non productif d'une part, et d'autre part c'est quelque chose qui va s'installer en mode chronique, en mode continu, où notre attention va être sans cesse sollicitée par le mental, par les projections, par les ruminations du passé. Et cette tendance à être principalement dans le mental va avoir quatre conséquences négatives. Et en découvrant ces conséquences, vous allez voir pourquoi ça va être très important de revenir dans le moment présent, d'être à nouveau attentif à nos ressentis, à ce qui se passe dans l'instant présent. Alors, quelles sont ces quatre conséquences? La première de ces conséquences, c'est que lorsqu'on est dans la conceptualisation, lorsque l'on est principalement dans le mental, le corps va adopter une attitude, une posture de protection, de défense. Il va se mettre légèrement en boule, donc les épaules vont rouler en avant, la tête va glisser en avant, et il va se mettre dans une dynamique pour nous protéger. Alors pourquoi est-ce que le corps fait cela? Pourquoi lorsque l'on est dans la conceptualisation, on va transformer notre façon de nous tenir, on va transformer l'attitude de notre corps? C'est parce que on a hérité un instinct de nos ancêtres, qui est la capacité à être très vigilant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Dans le passé, il y a des milliers d'années, les hommes, les femmes étaient extrêmement attentifs à ce qui se passait autour d'eux, aux informations visuelles, au bruit, à tout ce qui pouvait se passer. Donc le moindre petit indice pouvait leur sauver la vie. Ça peut être le mouvement d'un buisson, un bruit, une odeur. Ça pouvait leur sauver la vie parce que ces petites indications pouvaient indiquer la présence d'un prédateur, pouvaient indiquer la présence d'une tribu ennemie. Et cette vigilance extrême, cette vigilance accrue, nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Donc aujourd'hui, on continue à garder cette fonction, on continue à garder cette capacité de savoir très rapidement ce qui se passe autour de nous à travers nos sens pour justement éviter un potentiel danger, que ce soit une voiture qui arrive trop vite, que ce soit une agression, quelque chose qui nous tombe dessus. On est alerte à tout ce qui se passe pour rapidement réagir et éviter de se mettre en danger physiquement ou même de perdre la vie. Lorsqu'on est dans le mental, cette capacité va être amoindrie parce que, comme on l'a vu, lorsque l'attention est dans la réflexion, elle va être beaucoup moins attentive à ce qui se passe autour de nous et donc le corps va par défaut se mettre plutôt dans une posture de fermeture. Et il adopte cette posture, donc c'est, comme on a vu, c'est une posture de protection parce que c'est une posture où on va limiter les zones d'impact, on va aussi éloigner les organes vitaux, le cœur, les poumons, on va les rentrer à l'intérieur, on va contracter le corps, donc on va se préparer inconsciemment à une possible agression, à un possible impact physique parce que on est beaucoup moins vigilant. Donc le corps préfère ne pas prendre de risques et va plutôt nous contracter, nous fermer pour éviter un éventuel danger physique. Donc à chaque fois qu'on va être dans le mental, et d'ailleurs vous pouvez même voir si vous regardez autour de vous, quelqu'un qui est perdu dans ses pensées va avoir tendance à se fermer légèrement. On ne peut pas être complètement ouvert, avec une posture dynamique, avec la tête droite et en même temps perdu dans nos pensées. Donc le problème avec cette posture de fermeture, lorsqu'elle est maintenue pendant de longues périodes, c'est que d'une part, elle va créer des contractions au niveau du dos. Les contractions, les muscles contractés, ça prend beaucoup d'énergie, donc c'est des ressources qu'on est en train de prendre, de nos réserves, des ressources qu'on ne va pas pouvoir utiliser pour d'autres activités. Ça va aussi potentiellement causer des douleurs, parce que là aussi, une posture qui est contractée peut créer des tensions au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, ça peut causer des douleurs au niveau du dos. Ça a aussi un impact sur la respiration, parce que là aussi, on le voit facilement, que lorsque je fais comme ça, comme cela, ça comprime ma cage thoracique. L'expansion du diaphragme va être limitée, on va moins bien s'oxygéner. Et si on s'oxygène moins bien, le cœur doit travailler plus dur, parce qu'il y a moins de sang, moins d'oxygène dans le sang, donc il doit travailler plus dur pour envoyer plus de sang et plus d'oxygène de la sorte. Donc ça va impacter aussi notre cœur, notre respiration, potentiellement amenant des problèmes cardiovasculaires, des maladies, même une crise cardiaque, donc même des choses assez conséquentes au niveau de la santé, lorsque cette posture, lorsque cette dynamique de défense, de contracture est maintenue sur une longue période. Donc la première conséquence d'être dans le mental et d'être moins dans les ressentis, c'est qu'on a vu, on va se mettre en mode de protection par défaut et on va se fermer au niveau de la posture. Alors la deuxième conséquence, c'est qu'on va aussi avoir une diminution de la conscience de notre corps. Comme on l'a vu tout à l'heure, être dans le présent, c'est être attentif à nos ressentis, à ce qui se passe autour de soi, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Lorsqu'on est principalement dans le mental, on devient beaucoup moins attentif à nos ressentis. Et c'est cela qui fait qu'on va se surmener, qu'on ne va pas ressentir la fatigue, qu'on ne va pas s'écouter lorsqu'on a besoin de dormir. C'est cela qui va faire qu'on va manger des aliments qui ne nous conviennent pas, mais on les mange rapidement, automatiquement, par habitude, sans réaliser, sans ressentir que ça ne nous convient pas, qu'on va mal les digérer, que ça risque d'affecter notre santé sur le long terme. On est dans le mental, on est plutôt dans le contrôle, on est dans la projection et on est beaucoup moins attentif à ce qui se passe maintenant au niveau des ressentis de notre corps. Et cette diminution de la conscience du corps va favoriser des excès, va favoriser des maladies, va favoriser une mauvaise posture parce qu'on se déconnecte de plus en plus de notre corps. Donc moi en tant que chiropracticien, ça je l'ai vu encore et encore chez les patients, chez les personnes qui venaient me voir, des personnes qui n'étaient pas du tout attentives à leur corps, qui n'avaient peu de conscience de leur posture, qui ne se rendaient pas compte qu'elles avaient une mauvaise posture, qui ne se rendaient pas compte qu'elles étaient tout le temps contractées, qui poussaient de l'avant pour le travail, qui étaient en mode de stress continu, et qui à un moment arrivent, développent une grande crise, qui les amène à venir consulter quelqu'un, qui les amène à être alités, qui les amène à devoir arrêter leur travail parce qu'ils ne se sont pas écoutés et que la tension s'est accumulée et ça a amené une crise. Et je peux vous donner aussi mon exemple, car moi aussi je suis bien sûr tombé dans ce piège du surmenage. J'avais à ce moment-là, à cette époque-là, le cabinet, j'avais pas mal de charges de travail, charges aussi financières, j'avais plusieurs employés dans le cabinet. Je m'étais lancé aussi sur un projet de magazine, un magazine papier. J'animais aussi régulièrement des stages, donc il y avait une accumulation de travail. Je récupérais pas assez, je prenais pas le temps de me détendre, je prenais pas le temps de passer du temps aussi au niveau de ma vie sociale, et je m'écoutais pas. Je poussais jusqu'au moment où la nuit j'ai commencé à faire des apnées nocturnes. Où tout à coup on s'arrête de respirer, ce qui est extrêmement désagréable, et une sciatique qui me lançait dans la jambe, qui me faisait régulièrement mal, qui m'amenait à devoir dormir à même le sol pour essayer de passer la nuit sans trop souffrir. Donc j'étais arrivé aussi à un extrême où le fait de ne pas m'écouter, le fait de ne pas écouter mon corps, de ne pas écouter les besoins de faire des breaks, les besoins de s'étirer, les besoins de ralentir, ont fait que le corps s'est manifesté d'une manière beaucoup plus forte. Et après, c'est seulement lorsque j'ai commencé à lever le pied, j'ai commencé à prendre du recul, à faire certains changements, que ces symptômes se sont atténués, puis ont disparu. Donc lorsqu'on est dans un mode où on est principalement dans le mental, où on est très peu à l'écoute de notre corps, on n'écoute pas les messages du corps, on pousse, et ensuite le corps va se manifester généralement d'une manière beaucoup plus forte, le signal d'alarme va être beaucoup plus percutant, et cela va nous forcer à décrocher du mental et à revenir dans le présent. Donc vous remarquerez que lorsque vous êtes vraiment malade, vous n'êtes pas en train de penser à vos soucis, vous êtes juste là en train de ressentir votre corps, et c'est des ressentis souvent désagréables, mais au moins vous êtes attentif à ce qui se passe dans le corps. Donc cette deuxième conséquence, c'est qu'on a une diminution de la conscience du corps, et avec cette diminution de la conscience du corps, on ne sent pas arriver les problèmes, on accumule les tensions, on accumule le stress au niveau de l'organisme, et éventuellement on finit par développer des problèmes de santé, des problèmes plus importants qu'on aurait pu largement prévenir si on était juste un peu plus attentif au ressenti du corps et qu'on aurait agi en conséquence. Donc ça, c'est la deuxième conséquence négative de ne pas être attentif au présent et d'être plutôt dans le mental, c'est qu'on a une diminution de la conscience du corps. La troisième conséquence, qui est un peu dans la continuité de cette précédente, c'est qu'on est moins attentif à soi. On ne sait plus trop ce qui nous convient, on ne sait plus trop ce dont on a envie, on ne sait plus trop ce qu'on désire, on ne sait plus ce qui nous fait plaisir. C'est quelque chose que j'entends encore et encore, des gens qui me disent « je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus si ça me convient, je ne sais plus ce qui me rend heureux ». On devient tellement déconnecté de soi, déconnecté de nos ressentis, qu'on se sent un peu perdu. On a l'impression qu'on doit changer des choses. On est plutôt dans le mental, on s'en remet sur le mental pour décider ce qui va nous convenir ou pas, ce qui va nous rendre heureux ou pas. On se dit, bon, peut-être que si j'ai plus d'argent, si je rencontre la bonne personne, si je perds du poids, si je fais ça, si je fais ci, éventuellement je serai heureux, parce qu'on le sait, parce qu'on ne sait plus trop ce qui nous rend heureux dans l'instant présent. Et soit on arrive à nos objectifs, on rencontre quelqu'un, il y a des changements, on perd du poids, effectivement, il y a des changements qui se passent, et malgré tout, on est toujours dans un état d'insatisfaction, il y a d'autres choses qui surviennent, il y a toujours des choses qui nous amènent à être dans un état de confusion, où on ne sait plus trop ce qui nous convient et ce qui nous fait plaisir. Donc ça, c'est une des conséquences aussi d'être tout le temps dans le mental et dans le rationnel, c'est qu'on n'est plus au niveau de nos ressentis, les ressentis du cœur, les ressentis de notre être dans sa globalité, notre intuition, nos envies, nos besoins profonds. Donc tout cela, on n'est plus trop connecté dessus, on ne sait plus trop de comment agir par rapport à ce qu'on ressent, parce qu'on est uniquement dans le mental. Et donc ça, voilà, il est évident que c'est une conséquence aussi négative, parce que ça amène d'une part un sentiment d'insatisfaction et d'autre part de la confusion, parce qu'on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce que l'on veut. Et la quatrième conséquence négative à être principalement dans le mental et moins dans les ressentis, c'est que en plus d'être moins attentif à soi, on est aussi moins attentif aux autres. Parce que là aussi, on a l'être humain a cette capacité de ressentir l'autre, il a cette capacité d'empathie. On parle aussi maintenant au niveau scientifique de neurones miroirs. Lorsqu'on voit une personne face à nous, son attitude posturale, son visage, ses crispations, le ton de sa voix, ce qu'elle dégage, va nous amener à réagir au niveau corporel. On va ressentir cette personne, on va la ressentir dans notre être et on va savoir par miroir, on va savoir ce qu'elle ressent. On va avoir une bonne idée, un bon ressenti de ce que cette personne est en train de vivre. Mais si nous, on est coupé de nos propres ressentis, on va avoir beaucoup de mal à ressentir l'autre personne. Et du coup, on va là aussi s'en remettre uniquement au mental, on va s'en remettre plutôt à des jugements, à des idées reçues, on va analyser des relations, on va analyser la personne, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, est-ce que ça nous convient, est-ce que cette personne est bien ou pas, selon certains critères de notre mental, et on va pas du tout être connecté à cette personne, on va être beaucoup moins sensible à ce que cette personne est en train de vivre. Et du coup, on va avoir des relations déconnectées et ça va être des relations où on ne va pas pouvoir vraiment créer de lien avec ces personnes. Donc c'est pour ça que là aussi, on va souvent favoriser les personnes qu'on connaît depuis longtemps, un environnement qui nous amène du connu, de la stabilité, de la sécurité. On ne va pas être à l'aise à l'idée d'aller vers les autres, vers des étrangers, vers des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a plus cette capacité de ressentir l'autre, et du coup, on se méfie, et du coup, on se ferme, et on reste dans une zone de confort, dans un cercle de confort, par rapport à nos relations amicales, sociales, amoureuses. Donc là aussi, bien sûr, on devine la conséquence négative, ça nous ferme de plein de possibilités, de plein de rencontres, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau du travail, au niveau amical, on se ferme aux autres parce qu'on est incapable de les ressentir. On vient de voir ces quatre conséquences négatives. Donc tout d'abord, on va adopter une posture de défense, une posture de fermeture qui est gourmande en énergie, qui crée aussi des tensions au niveau du corps. Ensuite, cela crée une déconnexion de notre corps, donc on va avoir une diminution de la conscience du corps, qui va nous amener à faire des excès et potentiellement développer des problèmes de santé. Troisièmement, on est déconnecté de soi, de ce qu'on ressent, de ce qui est important pour soi, de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, on ne sait plus trop. Quatrièmement, on est déconnecté des autres, on n'arrive plus à ressentir ce qu'ils sont en train de vivre. Donc ces quatre conséquences d'un fonctionnement où on va être principalement dans le mental et pas assez dans le moment présent, on peut parfaitement voir que cela va créer du stress, que cela va créer de l'insatisfaction, que cela va créer du mal-être et va nous empêcher d'interagir, de profiter pleinement de ce que la vie a à offrir. Et lorsqu'on est principalement dans ce mode de déconnexion du moment présent, qu'on est principalement dans le mental, généralement, la vie va nous amener une crise qui va nous ramener dans le moment présent. Donc ça, c'est plus mon intuition, c'est plus mon opinion par rapport à cette dynamique-là. C'est que à chaque fois qu'on a une crise, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit une maladie, un accident, la conséquence qui va suivre à cette crise, c'est que ça va nous forcer à sortir du mental et à revenir dans la réalité, à revenir dans les ressentis, que ce soit à travers la douleur, que ce soit à travers la perte. On va être forcé de revenir dans le moment présent parce que votre être profond, ce qu'il veut, c'est profiter de l'expérience d'être en vie, et la richesse d'être en vie, c'est de pouvoir profiter de ce qui se passe autour de soi, de profiter pleinement de l'expérience sensorielle, de vivre les émotions, de vivre les ressentis dans leur profondeur, dans leur variété, et c'est cela qui nous permet de nous épanouir, c'est cela qui nous rend heureux, c'est cela qui nous permet d'interagir avec les autres, qui enrichit la vie, qui enrichit les relations. Et le fait d'être principalement dans le mental, c'est plutôt une attitude de fermeture, c'est plutôt une attitude de recherche de contrôle, de peur, où on va être dans la projection, on va être dans le passé, mais on va petit à petit se déconnecter de la réalité du moment présent. Donc quand il y a une crise, très souvent, ça nous force à revenir dans le moment présent. Heureusement, on n'a pas besoin nécessairement de passer par des crises. Le fait de comprendre cela, le fait d'en prendre conscience et de mettre en place des actions qui vont nous ramener graduellement à être plus attentifs à ce qui se passe dans le moment présent, va nous permettre de redévelopper cette capacité d'être dans le présent, sans pour autant bien sûr sacrifier ou négliger l'intellect et la capacité de création, d'imagination, qui sont, comme on l'a vu, d'extraordinaires capacités de l'être humain, mais au moins d'avoir un sain équilibre entre je suis dans le présent, je suis dans les ressentis, je suis attentif à ce qui se passe dans mon corps, et en même temps aussi, je fais des plans, je planifie, je réfléchis à mes expériences passées, je crée des choses à travers la conceptualisation. Donc on a ces deux éléments, on peut parfaitement les intégrer si on a un bon équilibre. Et qu'est-ce qui va vous aider à être davantage dans le moment présent, d'être davantage dans les ressentis de ce qui se passe dans l'instant? Eh bien, c'est tout ce qui va justement stimuler nos sens, c'est tout ce qui va nous amener à porter l'attention vers nous, vers nos ressentis. Alors ça peut être le yoga, donc le fait de s'étirer, on va ressentir nos muscles, donc on va être dans le corps, le tai chi, ça peut être aussi simplement le fitness, la marche à pied, la natation, prendre un bain chaud, se faire masser. Toutes ces choses-là vont ramener attention au niveau de votre corps. La méditation, la contemplation vont aussi développer cette capacité d'être dans le ressenti, d'être attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place relativement facilement. On n'a pas besoin de tout mettre en place d'un coup, mais dans sa journée, prendre le temps de revenir vers soi. Ce qui va être important, ça va être l'intention. C'est de comprendre l'importance d'être dans le ressenti, d'avoir cette intention et de la renouveler au quotidien. De prendre le temps d'être attentif à soi, d'être attentif à ce que l'on ressent. Lorsqu'on fait cela, on va beaucoup mieux observer ce va-et-vient entre le mental et les ressentis. Et lorsqu'on commence à prendre conscience de ce mécanisme et de réaliser que, tiens, je suis maintenant dans le mental totalement, je suis fermé, je suis contracté, je ne suis pas dans mes ressentis, et je décide d'ouvrir ma posture, je décide de respirer. Lorsqu'on commence à avoir ce déclic, ça fait une énorme différence dans la qualité de notre vie, parce qu'on ne se laisse pas embarquer dans le mental pendant des heures, pendant des jours, des semaines, voire des mois. On revient régulièrement à notre corps, à notre posture, à nos ressentis. Maintenant, je vous invite à partagez votre expérience, quelle est votre compréhension du moment présent, qu'est-ce que vous faites pour le vivre davantage. Donc comme on l'a vu, vivre le moment présent, on le fait tout le temps, mais ce qui va être important, c'est aussi d'être attentif et de ressentir ce moment présent. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à cet article, à cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. À très bientôt, merci beaucoup.